Le développement durable à l'épreuve de la culture. Présentation et évaluation de la notion.
Jean-Pierre Martin, président de l'Union des couveuses. Le concept de développement durable.
Pour comprendre notre problématique, déjà une problématique de population. 1900, 1,6 milliard d'habitants sur la planète, à l'horizon de 2050, 9 milliards d'habitants. La Terre n'ayant pas augmenté de volume, on a des enjeux d'épuisement de ressources, problématiques de changement climatique, pollution locale, accès à l'eau potable, répartition des richesses. Donc cette augmentation de population crée une réelle pression sur les écosystèmes. Toujours pour se faire une idée, je dirais, commune de la construction de tout ça, d'abord c'est une idée récente, le développement durable, les années 70, c'est-à-dire qu'il y a à peine 30 ans. Enfin, 30, un peu moins de 40 ans, 39 ans exactement. Donc une approche qui est d'abord une approche environnementale. Donc jusqu'aux années 80-90, on parlait d'éco-développement et cette dimension n'était prise en compte que par les ONG et que par les scientifiques. Prise de conscience à partir notamment de la commission Brundtland, donc 1987. Donc pour la première fois, on parle de développement durable. 92, sommet de la Terre à Rio. Et depuis, je dirais à peine une quinzaine d'années, la prise en compte du développement durable par notamment, non plus les gouvernements et les nations, mais je dirais par les organisations elles-mêmes, notamment les entreprises. Là, ce qui me paraît important de vous présenter, c'est cette notion de RSE, responsabilité sociale des entreprises. Alors derrière les entreprises, je pense qu'il faut étendre le concept d'entreprise à toutes les organisations. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que cette déclinaison du développement durable dans les organisations touche toutes les organisations, je dirais qu'elles soient lucratives ou non lucratives, je dirais culturelles ou productives. Donc c'est toute action humaine a une incidence, je dirais, sur l'environnement, sur les liens sociétaux, sur la relation sociale et sur la gouvernance. Donc ces aspects-là peuvent être pris en compte par toutes les organisations. Actuellement, il n'y a pas d'obligation. Les seules obligations qui existent pour les organisations, ce sont les sociétés cotées en bourse, donc qui ont cette obligation. Avec ceci dit, un grand retard des pays européens par rapport aux pays anglo-saxons, puisque grosso modo, les pays européens ont toujours considéré qu'en Europe, il existait une morale. Et donc, il n'y avait pas, je dirais, la responsabilité, elle appartenait, je dirais, dans la culture chrétienne, elle appartenait aux personnes. Et donc, il n'y avait pas besoin de légiférer. Alors qu'aux États-Unis, on a très très vite, je dirais, légiféré sur cette notion de responsabilité sociétale des entreprises.
Michel Kevitt, professeur à l'Université de Louvain et administrateur délégué de Reader 2, réseau innovation et développement régional. La culture productrice de sens.
Alors je dis tout de suite, j'ai une définition large, parce que la culture c'est large. Elle a d'abord une dimension, je dirais, où c'est champ de la créativité. Et vous êtes au cœur de la créativité, le développement artistique, etc. Mais aussi qui a un certain lien, évidemment, avec l'éducation. Il y a un autre champ qui est terriblement important en termes, disons, de responsabilité sociétale, c'est la culture en tant que création de valeur. La culture donne un sens à l'existence, elle donne un sens à la vie dans la société dans laquelle on vit, et évidemment, ça influe directement sur le développement durable, puisqu'on est là devant un enjeu de société. Alors, il y a évidemment aussi la culture en termes, je dirais, de relation avec le patrimoine culturel. Nous avons besoin d'un patrimoine culturel. Nous vivons dans ce que Paul Ricoeur disait, une historicité. Je suis ici avec vous, mais je suis aussi le produit d'un passé, et parce que je le reprends, je me projette vers l'avenir. Ça, je crois que c'est aussi une autre dimension. Et puis alors, la dernière, mais vous savez, il n'y a pas de hiérarchie dans la manière dont je vous présente les choses, c'est l'économie de la culture. La culture est un secteur économique qui crée des entreprises, des services, etc. Et bon, ben, je ne prendrai qu'un exemple. la couveuse, et il y a d'autres comme les clusters créatifs. Alors, c'est tout ça qu'il faut mettre derrière le concept de culture. Deuxième, autre chose qui me paraît importante au niveau de la culture, et là je vois la culture en tant que milieu actif dans les territoires, et aussi donneur de sens. Je crois que c'est très important que le monde culturel, parce que le sens, il peut, c'est pas simplement une philosophie. Le sens, il traverse l'ensemble des productions de la culture, de la créativité, que ce soit le cinéma, que ce soit le théâtre, etc., la peinture. Donc d'abord, c'est mettre, je dirais, première chose, mettre en lumière le sens de la dynamique, je dirais, des éléments durables, en disant aussi que c'est aussi un changement culturel de la vie en société. Ce n'est pas que de répondre à des problèmes, les enjeux précédents, c'est aussi de dire, bon, ben voilà, est-ce qu'on va, on veut vivre dans une autre société, etc. Alors, la question de la culture dans l'Europe, ça, c'est un grand défi. D'abord, soyons clairs, la culture n'est pas une compétence européenne. À Maastricht, on a dit qu'on pouvait soutenir de la culture, mais la culture n'est pas dans l'article 2 du traité, et donc ce n'est pas une compétence européenne. Alors, c'est très clair, on a fait une DG, Direction Générale de la Culture à l'Union Européenne, son budget représente 0,2% du budget communautaire. Raouette, comme on dit chez nous, c'est des peanuts. Mais c'est normal que ce soit des peanuts, puisque ce n'est pas une compétence européenne. Vous devez être conscient de ça. Moi, j'étais étonné, dans la campagne électorale aux élections européennes, qu'il n'y a pas eu un sursaut, disons, des futurs mandataires en disant, mais enfin, mon objectif, c'est aussi de faire de la culture une compétence européenne.
Baptiste Lanaspez, directeur des éditions Wild Project et coordinateur de Radio Grenouille. L'écologie profonde.
Le développement durable, dans sa volonté opératoire d'être consensuel, appropriable par tous, est devenu un petit peu une version, je dirais, un peu émasculée de ce qu'était la révolution écologiste. En particulier, par exemple, dans le rapport Brundtland, comme dans le manifeste de Rio, le mot de nature n'apparaît pas. Alors pourquoi pas ? On n'est pas obligé d'être amoureux de la nature pour faire du développement durable. Mais c'est quand même problématique. Le mot de nature n'apparaît que sous l'expression ressources naturelles, comme si la planète demeurait quand même l'instrument du développement. Et l'extension du coup du développement durable est tellement large qu'on peut, comme tout à l'heure, glisser en disant « Mais l'île 2004, c'était formidable, il y a eu trois fois plus d'hôtels ». Et c'est un peu un lapsus, mais ça n'en est pas tout à fait un, dans le sens où c'est toute l'ambiguïté d'un concept qui se veut très consensuel et qui donc, entre réformisme et révolution, choisit le camp de la réforme. Encore une fois, je suis véhément, mais je ne suis pas contre du tout le développement durable. Je dis que nous, en tant qu'acteurs culturels, on ne doit pas se ranger dans ce même type de discours, parce qu'on a un autre rôle à jouer. Et donc, 62, c'est Rachel Carson, c'est 10 ans avant Stockholm. Et en 72, le philosophe norvégien Arne Næss, sous l'inspiration de Rachel Carson, comme il le déclare lui-même, pense qui est la première formulation philosophique de l'écologie, qui s'appelle l'écologie profonde. Vous avez sûrement peut-être déjà entendu parler de ce que c'est que l'écologie profonde, et il est à peu près certain que si vous en avez entendu parler, vous en avez l'idée de quelque chose de subversif. Et je vais vous dire en effet que l'écologie profonde est subversive dans le sens où elle interroge radicalement les valeurs qui fondent le projet de civilisation occidentale. Arne Næss était inspiré par Gandhi, par Spinoza, et en effet il interroge de façon radicale nos valeurs. Alors on peut, comme Luc Ferry, trouver que c'est absolument scandaleux et qu'il faut rester kantien, il faut bien séparer l'homme et la nature, et que c'est ça l'Occident, et c'est ça la liberté, c'est ça Jean-Paul Sartre. Mais on peut se dire aussi que là il y a quelque chose qui interroge peut-être le fond du problème. C'est-à-dire que si on veut réformer l'éducation, si on veut réformer les modes de pensée qui président à la production, il faut à un moment donné s'interroger sur ce qu'est en train de devenir l'Occident. Lorsqu'on demande à Gandhi « Que pensez-vous de la civilisation occidentale ?», il répond cette phrase géniale qui est très célèbre, il dit « C'est une bonne idée ».
Ferdinand Richard, directeur de l'AMI et président du fonds Roberto Simetta. L'agenda 21 de la culture.
Le texte final, j'allais dire, qui va mettre en œuvre, qui est un peu la clé de contact de ces nouvelles stratégies de politique culturelle, c'est l'agenda 21 de la culture, qui n'est en fait qu'un mode d'emploi, j'allais dire, une application d'autres textes qui ont pu précéder. qui sont pour moi, et pour certains d'entre nous bien sûr, très importants. La fameuse déclaration d'Arquesenant qui remonte à 1974 quand même, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce qui prouve qu'on n'a pas fait beaucoup de progrès. Si vous pouvez accéder à ce texte, vous verrez que tout y est pratiquement, tout ce qu'on dit aujourd'hui est là, y compris la dimension écologique, philosophique, etc. Bien entendu, ces grandes manœuvres très compliquées, très lourdes à mettre en place, ambiguës autour de tout ce qui est déclaration sur la diversité culturelle, etc. Pour moi et pour certains d'entre nous, un texte beaucoup plus fondateur qui est la déclaration de Fribourg sur les droits culturels des individus. Mais si vous voulez, la traduction de cela, ça peut être ratifié par des États membres. Mais pour nous, sur le terrain, la traduction de cela, l'instrument, c'est cet agenda 21 de la culture porté par un très gros réseau mondial de villes et de gouvernements locaux qui s'appelle Cités et gouvernements locaux unis, qui regroupe des centaines de villes ou de régions ou de réseaux d'élus ou d'associations. Et voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, on a un outil assez concret qui correspond aussi avec la montée en puissance financière notamment dans ce pays, des collectivités territoriales, puisque vous savez tous que la principale dépense publique pour la culture dans ce pays, c'est les collectivités territoriales, avant le ministère de la Culture. Donc il y a des principes, des engagements et des recommandations dans cette déclaration. Il s'agit d'un outil complet et souple, inclus dans des politiques globales, mais qui part des besoins des citoyens et non pas des gouvernants ou des corporations.
Komlan Akbo, directeur du patrimoine culturel et des arts, commission UEMOA. Le champ culturel au sein de cette union ouest-africaine.
S'agit-il d'une erreur monumentale ou un mépris manifeste de la culture? En tout cas en Afrique, la culture a été la dernière préoccupation de nos économistes. L'UEMOA, qui signifie Union économique et monétaire ouest-africaine, a été créée en janvier 1994. Alors, son objectif principal, c'est d'abord assurer un développement durable, au moins là c'est écrit, et équilibré, constituer un espace économique unifié, porteur de croissance dans un cadre concurrentiel. Ne vous en doutez pas, la culture n'est pas spécifiquement mentionnée dans le traité. Ce n'est qu'en 2003 qu'une décision a créé une direction qui s'occupe de ce secteur. Alors la question est toute là. Comment l'UEMOA intègre-t-elle le champ culturel et la notion de développement dans ses actions? L'UEMOA mène certaines actions. Elle a adopté en 2004 un programme dit programme d'action commune pour la production, la circulation et la conservation de l'image. Ce programme vise essentiellement à redonner aux États membres la capacité durable de produire des images cinématographiques, télévisuelles et vidéographiques qui ressemblent à ces populations. En 2006, grâce à une convention de partenariat entre l'Université Senghor et l'UEMOA, des sessions de perfectionnement des acteurs et opérateurs culturels sont régulièrement organisées chaque année. Toujours en 2006, avec l'Union européenne, nous avons mis en place un fonds régional pour la promotion de la coopération et des échanges culturels en Afrique de l'Ouest.
Débat avec la salle, intervention d'Ayoko Mensah, rédactrice en chef d'Afriscope, puis de Jean-Pierre Martin, président de l'Union des couveuses.
Moi, je suis très critique sur cette notion et sur ce nouveau concept de développement durable, parce qu'il me semble que c'est vraiment effectivement une sorte de concept qui est né comme ça, qu'on nous vend aujourd'hui, parce qu'effectivement, il y a ce constat d'échec du développement habituel. Donc déjà, ça invalide ce qu'était effectivement le développement. On montre bien que c'était avant tout, effectivement, si on rajoute aujourd'hui le mot durable, c'est bien qu'il n'était pas forcément conçu comme durable et équitable. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus finalement un relookage, un toilettage, mais que finalement les questions fondamentales ne sont pas... La donne fondamentale n'est pas changée. Et qu'entre finalement la violence des rapports d'exploitation et de domination qu'il y a concrètement dans, dans les sociétés et ensuite ce que peut traduire les bonnes intentions du discours du concept de développement durable, il y a vraiment un fossé qui est énorme. Et donc, effectivement, si les acteurs culturels ne pointent pas, je dirais, cette dichotomie, bon, moi, j'ai l'impression qu'on va vers une schizophrénie totale.
Non, c'est plutôt une réflexion. Le développement durable, en rentrant dans les institutions, n'a rien de gentil. Je dirais, c'est accepté par, je dirais, les dictatures comme les ultralibéraux. Donc c'est pas quelque chose qui est une valeur morale. C'est un compromis de survie, je dirais. Et dans le monde libéral, la première obligation d'une entreprise libérale, c'est de survivre. Et donc, je dirais, l'adoption du développement durable, c'est parce qu'à un moment donné, on a un risque de non-survie. C'est ça qui fait adopter par l'ensemble de la société. Mais il n'y a pas du tout ni de valeur morale, ni de concept révolutionnaire. Total adopte une politique de développement durable parce que sa survie est en jeu. Point. Il n'y a pas d'autre motivation. Donc il ne faut pas chercher dans le développement durable ni des réponses en termes de société. C'est-à-dire que ça ne dicte pas la société future. Non, ça gère simplement un présent. Donc par contre, les artistes, effectivement peut-être pas les politiques culturelles, c'est peut-être à eux et les groupes de pression à nous inventer un futur. Mais c'est sûrement pas, on va pas trouver ça dans le développement durable.